Vous écoutez, on lit pour vous.
L'instabilité politique a un coût humain. Un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 25 janvier 2026 dans la presse. Pendant que les ministres ramassent leurs boîtes, les gens de la rue ramassent les pots cassés. Députés qui quittent leur caucus, ministres de premier plan qui se retirent, remaniements successifs. Le 14 janvier 2026, le premier ministre François Legault annonçait sa démission. Le 19 janvier 2026, c'était au tour de Sonia Lebel, ministre de l'Éducation et ancienne présidente du Conseil du Trésor, d'annoncer qu'elle quittera la vie politique à la fin de son mandat. Pris indépendamment, chacun de ces événements peut s'expliquer. Pris ensemble, il dessine un climat d'instabilité politique rarement vu au Québec dans une même législature. Cette instabilité a des répercussions directes, mesurables et durables sur le travail des organismes communautaires, entre autres ceux qui œuvrent en itinérance, en santé et en services sociaux. Depuis l'automne 2024, la politique québécoise ressemble à une salle d'attente. Les remaniements s'enchaînent, les responsabilités se déplacent, et même le Conseil du Trésor, pilier de la machine budgétaire, n'échappe pas à cette turbulence. Pour les organismes communautaires, chaque départ au sommet signifie des mois de délai, des ententes à réexpliquer, des engagements à renégocier. Sur le terrain, on ne parle pas de stratégie politique, mais de services fragilisés et de personnes laissées dans l'attente. Cette année, le programme Maison Ronde, Square Cabot, a 10 ans d'existence. Ça se fête. Des centaines de vies autochtones transformées. Un programme fondé sur des valeurs simples et essentielles, entraide, dignité, respect, accompagnement à long terme, pour soutenir des Autochtones en situation de vulnérabilité en milieu urbain. Ça fonctionne pour une raison claire, la stabilité. Des équipes qui restent, des parcours qui se construisent dans le temps. Une confiance patiemment gagnée. Les résultats sont là. Plus de la moitié des participants retournent aux études ou sur le marché du travail. Or, ce sont précisément ces conditions de stabilité et de prévisibilité que l'instabilité politique actuelle vient fragiliser. Pour le milieu communautaire, ces départs ne sont pas théoriques. Chaque fois qu'un ministre sacre son camp, c'est repartir à zéro. Réexpliquer, renégocier pendant que les gens dehors, eux, continuent de geler. Cette instabilité survient dans un contexte déjà extrêmement fragile. Les organismes du secteur de la santé et des services sociaux font face à un sous-financement chronique qui, selon eux, se chiffre en centaines de millions chaque année. Malgré cela, les rehaussements budgétaires récents demeurent marginaux et largement insuffisants pour absorber l'inflation, la hausse des loyers, l'augmentation des salaires et la pénurie de main-d'œuvre. À ce sous-financement s'ajoutent des décisions lourdes de conséquences. Gel de nouvelles subventions, des interruptions ou des ralentissements dans l'attribution de certaines subventions et programmes de réinsertion à l'emploi, disparition du Fonds d'aide à l'action communautaire autonome, FAACA, multiplication de règles administratives et attaques répétées contre l'autonomie du milieu. Dans ce contexte, l'instabilité politique agit comme un accélérateur de vulnérabilité. Les impacts sont déjà visibles. Des projets sont retardés ou mis sur pause. Des demandes de subventions restent sans réponse pendant des mois. Le financement à la mission, pourtant reconnu comme essentiel, est remplacé par des financements par projet, temporaires et conditionnels, qui fragilisent les équipes et nuisent à la continuité des services. Le plan d'action interministériel en itinérance, PAII, doté de 280 millions sur 5 ans, arrive à échéance en 2026. Plusieurs acteurs du milieu préviennent qu'un retard dans son renouvellement, dans un contexte de transition politique, risque d'aggraver une crise de l'itinérance déjà hors de contrôle. Attendre le prochain budget, puis une nouvelle orientation gouvernementale, revient à suspendre des services essentiels. Les organismes communautaires ne demandent pas un traitement de faveur. Ils demandent de la cohérence, de la prévisibilité et un financement à la hauteur des responsabilités que l'État leur délègue de facto. À l'approche du budget 2026, dans un contexte de course à la chefferie et d'élections prévues à l'automne, il est impératif que les enjeux communautaires ne deviennent pas des dommages collatéraux de la turbulence politique. L'instabilité politique, ce n'est pas un spectacle. C'est une bombe à retardement social. Et quand elle va péter, ce ne sera pas sur les banquettes de l'Assemblée nationale, ce sera dans la rue, chez les plus vulnérables, ceux qu'on ne voit jamais à la une. C'était l'instabilité politique à un coût humain, un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
L'intelligence artificielle à la rescousse de la productivité des entreprises. Un texte de Camille Carpentier publié le 6 janvier 2025 sur le site de Radio-Canada. Alors que l'intelligence artificielle, IA, s'impose de plus en plus dans le quotidien des Canadiens, une majorité d'entreprises au pays sont encore réticentes à l'idée d'y avoir recours. Celles qui ont décidé de l'adopter constatent des bénéfices sur la productivité. Cependant, cette technologie dispendieuse demeure inaccessible pour bien des gens d'affaires. Laurie La Rochelle connaît l'usine de Simard, cuisine et salle de bain à Saint-Tite-des-Caps comme le fond de sa poche. La directrice générale nous fait visiter les différentes stations de travail où des employés s'affairent autour de machines dernier cri qui donneront vie à des armoires ou à des comptoirs. Néanmoins, aux yeux de cette chef d'entreprise manufacturière, la technologie la plus révolutionnaire de l'usine se trouve dans son bureau. Depuis quelques mois, elle utilise l'IA pour planifier la production. Le logiciel en question est toutefois loin de ressembler au populaire robot conversationnel généré par l'intelligence artificielle générative. Sur son écran d'ordinateur, Laurie La Rochelle peut apercevoir d'un coup d'œil la quantité de travail que ses équipes devront abattre dans les prochains mois. Si une surcharge s'annonce pour une station de travail, il suffit d'un clic pour demander à l'intelligence artificielle d'optimiser la séquence d'ouvrage et ainsi éviter de devoir payer des heures supplémentaires. Citation : Quand on a commencé à parler de l'intelligence artificielle, on s'est tout de suite posé la question : qu'est-ce que ça peut faire pour nous ? Fin de citation. Pour l'entreprise de la Côte-de-Beaupré, la réponse s'est imposée d'elle-même. Avec un carnet de commandes qui ne cesse de s'allonger, Simard avait besoin d'un outil qui allait l'aider à gérer sa croissance fulgurante. Citation : Le chiffre d'affaires a doublé dans les 5 dernières années, explique Laurie La Rochelle. On vise de doubler encore dans les 5 prochaines années, donc c'était important pour nous d'avoir les outils pour bien soutenir nos employés dans cette croissance. Fin de citation. L'usine livre de 5 à 7 projets par jour. Entre les dates prévues de réception des matières premières, les congés des employés et les travaux déjà en cours, il devenait de plus en plus complexe de garantir avec précision une date de livraison au client. Le logiciel, lui, est capable de planifier la séquence des travaux en quelques secondes en tenant compte d'une 40aine de facteurs. Citation : Ça prenait des gens qui avaient des 10aines d'années d'expérience dans le domaine, mentionne Laurie La Rochelle. En ayant le logiciel qui vient imiter plein de réflexions, ça permet d'avoir des ressources qui sont relativement juniors et qui vont être capables de prendre, 90 % du temps, d'aussi bonnes décisions qu'une personne d'expérience. Fin de citation. Citation : Les décisions prises sont au-delà de ce que le cerveau humain est capable de faire. C'est très positif pour nous, pour la croissance. Fin de citation. La lente intégration de l'IA en entreprise. C'est Vuban, une entreprise de Québec, qui a conçu cet outil sur mesure pour Simard Cuisine et salle de bain. Citation. On déploie des solutions qui incluent l'intelligence artificielle dans le but d'automatiser ou de transformer les entreprises, explique le vice-président exécutif de Vuban, Hugues Foltz. On va enlever des mains des humains la planification. Ce qu'on sait très mal faire, c'est la gestion de plusieurs variables ou contraintes. Fin de citation. Au cours des 8 dernières années durant lesquelles elle s'est spécialisée en intelligence artificielle, Vuban a travaillé avec près de 400 entreprises, la plupart manufacturières. Citation. Le manufacturier s'est réveillé, je dirais, et a intégré l'IA de façon un peu plus massive il y a déjà presque 10 ans de ça. Ellipse. Les autres secteurs d'activité, beaucoup d'autres domaines et d'autres industries viennent de se réveiller. Certaines se réveillent à peine. Fin de citation. Un récent rapport de Statistique Canada confirme que l'IA est encore adoptée par bien peu d'entreprises au pays. Au troisième trimestre de 2025, seuls 14,5% des entreprises avaient l'intention d'utiliser l'IA au cours de la prochaine année. Cette proportion s'élevait à 13,1% au Québec et à 16,5% en Ontario. Citation. On n'est pas du tout en avance en intégration des nouvelles technologies, dont l'IA, affirme Hugues Foltz. On n'a jamais vraiment eu cet appétit-là. Ellipse. On n'a pas une curiosité naturelle, autant les Québécois que les Canadiens, aux nouvelles technologies. Fin de citation. Statistique Canada note également que les secteurs qui utilisent le plus l'IA présentement sont la finance, les assurances, l'industrie de l'information et l'industrie culturelle. L'agriculture, la foresterie, la restauration, la construction et le transport sont parmi ceux qui s'y intéressent le moins. Même s'il remarque depuis 2 ans un intérêt grandissant des entreprises pour l'IA, Hugues Foltz croit que le Canada et le Québec ont un grand retard à rattraper par rapport aux marchés internationaux. Il croit que cette technologie est devenue presque incontournable pour améliorer la productivité au pays. Citation. Cette résistance-là, ou ce manque de curiosité-là, a ralenti beaucoup d'entreprises et aujourd'hui, on est à une étape où nos entreprises sont un peu au pied du mur. Elles n'ont plus le choix d'y aller. Puis, c'est un peu une course contre la montre à savoir quelles sont les entreprises qui vont traverser le fameux pont et intégrer l'IA à temps pour survivre. Fin de citation. Le Conseil du patronat du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, notamment, craignent que ce retard ait des répercussions négatives sur l'économie. Une adoption encore complexe. Plusieurs obstacles freinent l'intégration des solutions d'intelligence artificielle en entreprise, à commencer par la méconnaissance de cette technologie. Citation. Le manque de compréhension, juste comment ça fonctionne, c'est parfois suffisant pour ralentir l'entrepreneur ou le gestionnaire. Fin de citation, note Hugues Foltz. Le récent rapport de Statistique Canada démontre que 11% des entreprises sondées manquaient de connaissances sur les capacités de l'IA. Une proportion de 78% juge que la technologie n'est pas pertinente pour la production des biens ou des services qu'elles offrent. Le coût d'implantation peut aussi être une barrière, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Dans le cas de Simard Cuisine et Salle de bain, la création du logiciel a coûté entre 500 000 et 1 million de dollars, et elle a requis environ 3 ans de travail. Laurie La Rochelle s'attend à un rendement de l'investissement d'ici 3 ans. Citation. Pour nous, c'est un des plus gros investissements qu'on a fait. Ça nous a coûté plus cher que nos machines. C'est considérable. Fin de citation, précise la directrice générale qui croyait au projet malgré le risque financier qu'il comportait. Dans un rapport publié en novembre dernier, la firme KPMG a sondé plus de 700 grandes entreprises canadiennes sur leur utilisation de l'IA. Le tiers des répondants qui ont adopté la technologie ont indiqué prévoir rentabiliser leur investissement en 1 an. 2/3 d'entre eux estiment que cela prendra jusqu'à 5 ans. Citation. C'est une technologie parmi d'autres. Si ce n'est pas rentable pour une entreprise d'en faire, n'en faites pas. Fin de citation, recommande Hugues Foltz. Il croit également que les entrepreneurs manquent de ressources pour les aider à naviguer dans cette nouvelle ère technologique. Citation. « Des Vauban, il n'y en a pas tant que ça », indique-t-il. « Il manque probablement d'entreprises pour bien épauler, accompagner les entreprises dans l'intégration de l'IA dans leur façon de faire. » Fin de citation. Des formations destinées aux entreprises et à leurs employés voient pourtant le jour. Le centre de formation FIU, École des organisations, qui a des campus à Montréal et Québec, offre aux organisations un programme leur permettant d'adopter leur façon de faire à cette nouvelle réalité. Citation. L'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une technologie, c'est vraiment un changement culturel qui vient transformer les organisations. Ellipse. Transformer la façon qu'on a de pratiquer un métier. Fin de citation, affirme Marie-Pierre Abbas-Gérard, leader du campus IA d'AFIU. Elle estime que tous les types d'entreprises peuvent y trouver leur compte. Citation. Ne pas utiliser l'IA, c'est malheureusement garantir que l'entreprise, dans 2, 5, 10 ans, ne sera plus pérenne. La question ne se pose plus. Fin de citation. Même si elle ne peut pas encore mesurer l'incidence à long terme qu'aura l'intelligence artificielle sur la productivité de Simard Cuisine et Salle de bain, Laurie La Rochelle en voit déjà les bénéfices. La technologie, tient-elle à préciser, ne sert pas à remplacer des employés. Citation. Ça ne vient pas remplacer l'humain, ça vient l'augmenter. Fin de citation, assure-t-elle. D'autres projets en IA sont d'ailleurs dans les cartons pour l'entreprise charlevoisienne. La directrice générale invite ses pairs à s'intéresser à ce que l'IA peut faire pour eux. C'était l'intelligence artificielle à la rescousse de la productivité des entreprises. Un texte de Camille Carpentier, publié le 6 janvier 2025 sur le site de Radio-Canada.
La vache québécoise perdue dans le hachoir. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse. La question est simple. Pourquoi n'y a-t-il pas de bœuf québécois à l'épicerie? Avec près de 400 000 vaches dans les fermes laitières du Québec, dont environ le quart sont envoyées à l'abattoir chaque année, ça ne devrait pas être si difficile d'en trouver. Or, la réponse est compliquée, vraiment compliquée. Comme a pu le constater le comédien et metteur en scène Justin Laramé, à qui l'on devait déjà « Rondelet », une pièce et un balado sur les coulisses de l'industrie laitière que le public a pu découvrir en 2022. Avec son nouveau projet, le documentaire audio « Front de bœuf », il s'intéresse cette fois à ce qui arrive aux vaches quand elles ne font plus assez de lait. Et en cours de route, le comédien a pu observer des choses révoltantes, déroutantes, floues, nauséabondes, inquiétantes, décourageantes. Je pense que ça arrange beaucoup de gens que ce soit compliqué, pense-t-il. Parce qu'il y a peu de gens qui ont le temps de faire le parcours que l'équipe a fait, tout le long de la production du balado. À peine nous sommes-nous installés à la table du café, les mots se mettent à débouler. Justin Laramé a vraiment beaucoup à dire sur la question. 2 ans de travail ont été nécessaires pour réaliser « Front de bœuf », dont les 6 épisodes viennent d'être déposés sur la plateforme Audio, O-H-D-I-O, de Radio-Canada. On vous avertit d'emblée. L'auditeur, à qui le monde agroalimentaire est complètement étranger, sera dérouté. Ça prend quelques notions pour comprendre le cycle de vie d'une vache laitière québécoise de l'étable à l'assiette. mais ça vaut la peine de persévérer dans l'écoute pour prendre la mesure du problème sur lequel Justin Laramé veut attirer notre attention. C'est ainsi que l'on comprend que, chaque année, les fermes laitières québécoises envoient environ 100 000 vaches de réforme à l'abattoir, soit des vaches qui ont terminé leur carrière laitière. C'est énorme, et pour cause. Le Québec est le plus grand producteur laitier au Canada. Malgré cette quantité impressionnante d'animaux à abattre, la majorité de ces vaches sont transportées dans des abattoirs hors de la province, en bonne partie aux États-Unis. Dans ses recherches, l'équipe a même retracé des vaches québécoises jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, en ce moment, explique-t-il, la vache part du centre du Québec ou de Chaudière-Appalaches et va se faire abattre en Pennsylvanie. Ensuite, la viande est transformée en Alberta et elle revient dans un restaurant de Drummondville. Et en cours de transformation, la vache québécoise disparaît dans le hachoir. Sa viande est mélangée avec celle de toutes les autres qui passent par la chaîne de production ce jour-là, qu'elles viennent d'ailleurs au Canada, des États-Unis, d'Amérique du Sud ou même de Nouvelle-Zélande. Et donc, à la fin, le paquet de bœuf haché vendu en épicerie au Québec contient de la viande qui vient d'un peu partout. C'est ce cycle que dénonce Front de bœuf. Comment faire en sorte que tout ce parcours se déroule au Québec? Est-ce parce qu'il manque d'abattoirs? Pas du tout. Il y a suffisamment d'abattoirs au Québec pour recevoir toutes les vaches. Le problème, c'est que les abattoirs manquent d'approvisionnement. Il faut entendre le témoignage de la propriétaire du groupe ADEL, Adel, à Luceville, qui raconte comment elle voit quotidiennement passer des camions pleins de vaches en route vers un abattoir situé à des centaines de kilomètres, alors que le sien est loin de rouler à plein régime. Troublant. Et pourquoi les producteurs envoient-ils leurs vaches se faire abattre si loin? Parce que les abattoirs, situés à l'extérieur du Québec, offrent un meilleur prix d'achat pour leurs bêtes. Ils ont les moyens d'écraser la concurrence puisqu'ils appartiennent essentiellement à un seul propriétaire, la multinationale américaine Cargill. Ce qui explique, comprend Justin Laramé en cours d'enquête, pourquoi les abattoirs québécois qui n'appartiennent pas à Cargill n'arrivent pas à acheter les vaches québécoises. Le cas le plus douloureux est celui de la faillite, en 2012, de l'abattoir Lévinoff-Colbex de Saint-Cyril-de-Wendover. Même si leur propre fédération, les producteurs bovins du Québec, était propriétaire de l'établissement, des producteurs ont vendu leurs bêtes à meilleur prix à des concurrents de l'Ontario ou d'ailleurs. Ajoutons à tout ça l'application de normes d'élevage et d'abattage beaucoup plus strictes au Canada qu'aux États-Unis, ou le fait que les vaches peuvent être transportées en camion pendant 36 heures sur de longues distances avant qu'on leur accorde une pause. Et on achève l'écoute de Front de bœuf avec un petit mal de cœur. On fait quoi, alors? On demande du bœuf québécois à l'épicerie. S'il y a une demande pour de la viande de vache du Québec, il va y avoir de la viande de vache du Québec. Ça, c'est la base, assure Justin Laramé. Mais tout de suite, il nuance. Le consommateur a le dos large. Il faut arrêter de tout lui remettre dessus. Les grandes enseignes d'épicerie doivent aussi faire pression sur leurs fournisseurs, dit Justin Laramé. Et les gouvernements, ajoute-t-il, doivent alléger certaines normes administratives imposées aux abattoirs pour rendre ceux-ci plus concurrentiels. C'est ce que ça prend pour renforcer la fameuse souveraineté alimentaire souhaitée au Québec. D'après moi, les gens vont être contents de payer plus cher pour de la viande de vache du Québec, en sachant très bien que c'est la vache qui leur a donné leur lait, dit Laramé. Et les coûts pour la société doivent être évalués au-delà de celui du prix de la livre de bœuf haché. Tous les jours, rappelle-t-il, près d'une dizaine de camions conduisent des bovins hors du Québec avec toutes les émissions de CO2 et les impacts sur le bien-être animal que ça implique. Combien ça nous coûte, ça, collectivement? Je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Qui est Justin Laramé? Né en 1980, originaire de l'Outaouais et diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2003, Justin Laramé est acteur, auteur et metteur en scène. En 2022, il a créé et interprété la pièce de théâtre documentaire Rondelet, d'abord au Trident, à Québec, puis en tournée à travers la province. On l'a vu au petit écran dans L'appel, Hubert et Fanny et Doute raisonnable, et au grand écran en 2023 dans Coco ferme. Pour le balado Front de bœuf, pour lequel il signe la recherche, le scénario et l'animation, il a travaillé avec le réalisateur Guillaume Théier ainsi que la recherchiste et productrice Gina Desjardins. C'était « La vache québécoise perdue dans le hachoir », un texte de Judith Lachapelle, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse.